monsieur. Bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance,
on but de l'alcool et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on n'a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste, la gangrène, on est ici pour la
gangrène. L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue si vous nous rejoignez à l'antenne de Radio Canu. Sinon, bah, nous prenons la suite de cette émission musicale une semaine sur deux. Il est 19h, vous êtes à l'écoute du Canu Info de ce jeudi 26 janvier 2023. Il est 19h, nous sommes ensemble jusqu'à 20h et Laurent, vas-tu bien ?
Tu me parles ? Ah oui,
oui, je te parle. Voilà.
Oui, je vais bien.
En fait, t'es au bout de ta vie.
Mais... au bout de ta vie, mais je vais quand même faire le Canu Info. C'est quoi le programme aujourd'hui ?
Alors, on va parler de retraite de CPF, de chômage. Voilà. Je vais vous le faire dans l'ordre et dans le désordre, parce que selon nos capacités à ne pas tousser, et on va peut-être un petit peu modifier le déroulé de cette émission. Nous parlerons de politique, parce qu'il n'y a que du beau monde, hein, quand même, il faut le dire. Nous parlerons de Roger Waters, nous parlons de bande dessinée, de censure, et c'est l'arabe qui gagne à la fin.
Ouais.
Voilà. Nous parlerons d'Israël-Palestine, ce qui nous ramènera à... Peut-être que tu aurais pu inverser d'ailleurs tes deux sujets pour pouvoir bien enchaîner. Nous parlerons d'homophobie, puis peut-être d'autres choses en international, mais nous verrons à quelle vitesse nous allons.
On mettra la BD en deuxième, comme ça, ça sera bon. Allez, voilà. Vas-y.
Mais d'abord, je voulais ouvrir cette émission en parlant d'une lutte qui est à l'appel de deux syndicats. Nous en avons rencontré l'un d'entre eux et à qui nous avons longuement discuté, en tout cas longuement, sympathiquement discuté lors de la dernière manifestation contre cette réforme des retraites, parce que ça sert aussi à ça, hein, les manifestations, en tout cas moi je trouve, c'est à rencontrer des personnes qui ne travaillent pas dans votre secteur d'activité et qui vous racontent leur métier, les difficultés et puis aussi les luttes, et donc vous saurez comme ça que je ne travaille pas dans le jeu vidéo. Et donc on a discuté avec le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, dont vous pouvez voir les drapeaux avec écrit STJV dessus, et donc c'est une lutte lancée donc par ce syndicat et Solidaire Informatique. C'est une lutte, on en a déjà parlé, hein, de la création du syndicat à l'époque, parce que c'est assez rare d'avoir des mobilisations dans ce secteur d'activité, qui, rappelons-le, n'est pas que un secteur d'activité avec des testeurs et des testeuses de jeux vidéo. Non, il y a beaucoup, beaucoup de métiers, et ce ne sont pas que des informaticiens, évidemment. Voilà, donc c'est aussi une spécificité, hein, de ce syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, que nous saluons donc ce soir. Ces deux syndicats appellent donc à une lutte assez encore peu courante, à une grève, hein, et donc à débrancher les manettes et débrancher les souris, à tout laisser en charge à Ubisoft. Il faut dire qu'il y a un patron qui peut-être aurait dû fermer sa bouche et en tout cas poser son stylo et sa souris. Ce patron, c'est Yves Guillemot, qui dans un texte révélé par Kotaku, qui est un site spécialisé dans le domaine, a révélé donc un courrier de ce patron, monsieur Guillemot, dans lequel il appelle ses équipes à travailler, hein, globalement. Donc on a eu des petits extraits comme ça, qui dit « Aujourd'hui, plus que jamais, j'ai besoin de votre dévotion et de votre énergie totale pour faire en sorte que nous revenions sur le chemin du succès. Je demande par ailleurs à chacun d'entre vous d'être prudent et stratégique dans vos dépenses et initiatives. » Alors entre la dévotion, l'énergie totale et la prudence stratégique, déjà ça faisait beaucoup. Alors c'est vrai que c'est un secteur, hein, en pleine difficulté aussi, hein, ces derniers temps, dans certains, en tout cas pour certaines entreprises et multinationales, et puis pour d'autres entreprises plus petites du secteur, parce que c'est aussi un secteur dans lequel il y a de la sous-traitance, hein, donc voilà, c'est un peu comme dans la voiture, tout est compliqué et tout peut vite se faire un effet domino. Il dit aussi la balle est dans votre camp afin de délivrer le line-up prévu en temps et en heure au niveau de la qualité attendue afin de prouver à tout le monde ce que nous sommes capables. Donc bon, c'est c'est des phrases qui n'ont pas été bien perçues hein, par les salariés, d'où cet appel à débrayer, cet appel à faire grève. L'idée, c'est de dire qu'il y a des conditions de production des jeux et des conditions de travail qui sont toujours délétères, qui sont aussi stupides aujourd'hui dans les stratégies mises en œuvre hein, dans le secteur et en particulier donc à Ubisoft, qu'il y a une charge de travail extrêmement importante et qu'en fait, ils ne peuvent pas travailler, ils et elles, plus vite que ne va le jeu vidéo. Donc on voilà, il y a une réaction quand même à cette impossibilité à faire face à cette charge de travail qu'on leur impose, à la vitesse de travail qu'on leur impose. Voilà, donc une lutte que j'avais envie de saluer. Voilà, des camarades que nous pensons bien retrouver mardi prochain à la manifestation, donc à 14h, avec un départ devant la Manu, bien évidemment, vous êtes au courant.
Et oui, et je poursuis donc du coup en parlant un peu de bande dessinée. Avec deux infos du jour, alors une info pas du jour mais qui a quelques jours, c'est l'apparition de l'édition allemande d'une BD qu'on aime bien ici.
Dont nous avons parlé et passé une interview.
Oui, d'ailleurs. Une grosse interview qui a été annulée en raison d'un mot polémique concernant Israël, puisque c'était écrit « Apartheid » au sujet de ce qui se passe, de ce que fait Israël en Cisjordanie. C'est l'éditeur et les auteurs qui ont communiqué. Donc ce mot, il se trouve en fait dans la postface du livre de la BD qui s'appelle « Élise et les nouveaux partisans », donc écrite par Dominique Grange, qui est chanteuse avant tout, et qui était militante marxiste dans les années 70, où elle raconte un peu tout ça, et mis en image par Philippe Tardy. Jacques Tardy, bon, je peux l'appeler Philippe aussi, mais je peux l'appeler Jacques, ça sera mieux.
Je crois que ça y est, t'as de la fièvre, ah, c'est parti.
Je suis pas loin là. Donc là, donc Dominique Grange hein, dit officiellement, je cite, sa solidarité avec la résistance exemplaire du peuple palestinien depuis 70 ans contre l'occupation et l'apartheid israélien. Donc cette BD qui a été publiée il y a un peu plus d'un an et demi aux éditions Delcourt raconte donc son parcours de militante il y a un petit moment, hein, il y a au moins 50 ans. L'ouvrage devait être traduit en allemand et arriver dans les librairies allemandes le 16 janvier. Mais sans que personne soit au courant, donc ni les auteurs, c'est-à-dire Dominique Grange et Jacques Tardy, ni la maison d'édition originelle, c'est-à-dire les éditions Delcourt, l'apparition a été annulée. Et ils l'ont appris comment ? En fait, c'est quelqu'un qui aime bien les deux et qui l'avait commandé. Ça sortait le 16 janvier, il l'a pas reçu, il l'a demandé. Non, finalement, la publication est annulée. Donc ils l'ont appris comme ça indirectement par quelqu'un qui a voulu acheter la BD et qui a pas pu l'acheter. Alors, c'est une édition, une maison d'édition allemande qui s'appelle Carson, qui ont confirmé officiellement que le mot d'apartheid était bien à l'origine du problème. Alors après, ils essayent de se dédouaner, ils sont ridiculement ridicules. Nous sommes toujours convaincus de la qualité de l'histoire de Dominique Grange et des illustrations de Jacques Tardy et regrettons que concernant la postface, nous n'ayons pas fait de vérification suffisamment attentivement avant d'annoncer la publication. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que, soi-disant, ils défendent l'histoire et tous les combats que raconte Dominique Grange dans ce livre, dont la cause palestinienne, et ça les aurait choqués qu'il y ait ça dans la postface. C'est une excuse à deux balles. En fait, je ne sais pas quel est cet éditeur et ce qu'ils font, mais ne pas défendre la cause palestinienne, c'est-à-dire soutenir du coup la colonisation israélienne, parce qu'il n'y a pas d'entre-deux dans ce truc-là, hein, faut arrêter les entre-deux. Eh ben c'est triste, c'est moche et ça donne juste envie de vomir. Alors Dominique Grange est interrogée par l'AFP, elle a dit qu'elle se sentait blessée et elle a dit, je cite, nous on le vit comme une censure, on n'a rien su, on l'a appris par un lecteur qui avait commandé le livre et à qui son libraire a annoncé qu'il n'allait pas paraître. C'est pour le moins grossier. Alors la BD a plutôt du succès, bien que ce soit un truc un peu particulier de parler de ces luttes d'il y a 50 ans, et on se dit, est-ce qu'il y a un public pour ça ? Alors Dominique Grange et surtout Jacques Tardy en BD, c'est un immense dessinateur, donc il est connu en France, mais il a été publié aussi, cette BD a été publiée en italien, en espagnol, en catalan, en portugais, et elle va bientôt sortir aux États-Unis d'Amérique. Donc voilà, il y a un vrai intérêt et ça nous fait plaisir. Voilà. Et ils sont allés plus loin, c'est le traducteur qui s'appelle Ulrich Profrock qui a dit qu'il ne travaillerait plus avec cet éditeur allemand maintenant parce qu'il trouvait ça lui aussi pas normal. Alors le pire dans tout ça, c'est qu'en fait la qualification d'apartheid sur la situation palestinienne, c'est pas un truc dont Dominique Grange a le monopole. C'est pas elle qui s'est réapproprié un mot, l'apartheid, la situation de discrimination des blancs contre les noirs de l'Afrique du Sud, voilà, dans les années 70, 80, jusqu'à la fin des années 80. L'éditeur peut pas lui reprocher ça, parce qu'en fait ça a été utilisé officiellement par Amnesty International, ça a été utilisé officiellement par la Fédération internationale des droits humains. C'est quand même les deux plus grosses organisations internationales de défense, ce qu'on appelait avant les droits de l'homme et maintenant les droits humains. Voilà, ça a été utilisé aussi par d'autres ONG, la CIMAD et des choses comme ça. Alors, vous me direz, mais la question de ce mot fait toujours débat, est-ce que c'est approprié d'utiliser ce mot ? On s'en fout, en fait, quelque part. On peut discuter de l'utilisation de tous les mots, mais là, le fond est plus important qu'un mot. Et pour le coup, je suis allé voir la définition de l'apartheid, celle qui est issue, en fait, de la Convention pour l'élimination et la répression du crime d'apartheid de 1973. Donc, un truc un peu officiel en Afrique du Sud. C'est défini comme, donc, je cite, un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur un autre groupe racial ou tout autre groupe racial et dans l'intention de maintenir ce régime. Ça ressemble quand même étrangement à ce que vivent les Palestiniens sous le coup des Israéliens. Voilà. Donc c'est pas illogique que ce mot soit employé. Voilà, c'est triste que cet éditeur ait eu ce comportement, c'est-à-dire de soutien à Israël, et quitte à sacrifier une BD, à censurer une BD. Et puis la bonne nouvelle du jour, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et à la fin c'est l'arabe qui gagne, puisque le festival d'Angoulême vient d'ouvrir aujourd'hui, et historiquement, enfin traditionnellement, le premier jour, il donne le grand prix. C'est l'auteur là qui est récompensé pour son œuvre, tout ça, et qui revient l'année d'après gérer le festival. Alors, Angoulême, c'est compliqué, hein, ça fait au moins moult années que nous avons galère, polémique, scandale. Le dernier de cette année, hein, c'est l'annulation de l'expo de Bastien Viviès à cause de ses dessins, de ses histoires, de quelques-unes de ses histoires à tendance pédophile.
Et son sexisme aussi.
Et alors oui, je pense qu'il est con et qu'il est indéfendable, hein, Bastien Viviès, mais effectivement, son sexisme aussi. Alors, il s'est rattrapé dans sa dernière défense, hein, donc, il a répondu plus correctement et c'est bien plus acceptable, mais le mal est fait, comme on dit. Donc ils avaient annulé l'expo. Donc c'est un peu compliqué à Angoulême, hein, depuis quelques années. Il y a eu d'autres problèmes et d'autres problématiques à Angoulême. L'absence des femmes, enfin il y a eu voilà, pas mal de choses. Et là aujourd'hui donc est donné le palmarès, hein, en général c'est le dernier jour. Là est donné donc le fameux grand prix. Et qui c'est qui l'a eu ? Eh ben c'est Riyad Sattouf. Alors j'ai dit l'arabe du jour, non pas que je qualifie Riyad Sattouf d'arabe, mais parce que il l'a eu entre autres grâce au succès de l'arabe du futur, dont le tome 6 est sorti cette année. Alors même si ça c'est un grand prix, ça récompense pas une BD, ça récompense ce qu'il est lui, ce qu'il a fait dans le monde de la BD. Voilà, il prend la suite de la Canadienne Julie Doucet, qui avait gagné l'année dernière. Alors, à côté de lui, en fait, ils étaient trois en lice, hein, pour gagner le Grand Prix. Il y avait Catherine Meurice, donc qui a perdu. Mais bon, elle a eu d'autres prix il y a quelques semaines, donc ça doit la consoler. Notamment, elle est rentrée à l'Académie des Beaux-Arts. Et il y a l'Américaine Alison Bechtel qui était aussi pressentie pour ce prix, qui a perdu donc. Mais sa BD qui s'appelle Secret de la force surhumaine, la BD sortie en 2000 la dernière, avait été retenue pour le prix Médicis. Voilà, bon, il y a des compensations. Elles ont perdu, mais elles ont quand même pas mal fait parler d'elles. Ces derniers temps, elles ont gagné aussi, donc voilà. Alors, vous me direz, Riyad Sattouf, c'est quand même l'auteur de BD qui marche le plus en France depuis au moins 4-5 ans. Parce que là, il y a l'Arabe du futur, donc le sixième tome est sorti, c'est la fin. Il raconte toute son enfance. Donc on rappelle, hein, son père est syrien, sa mère est bretonne, enfin française, mais donc de Bretagne. Ça joue la Bretagne, hein, pour le coup, dans l'histoire. C'est pour ça que je dis bretonne. Et il raconte tout son enfance, qui se passe entre la Bretagne, la Syrie, la Libye, et voilà, ces années de montée de présence très forte de la religion, ce qui lui le laisse un peu dubitatif, hein, parce qu'il n'est pas croyant, il voit les autres faire des trucs un peu bizarres, pour lui. Puis il est blond, enfin quand il est petit, ce qui est marrant, maintenant il est brun, mais il était vraiment blond quand il était petit. Enfin voilà, ça raconte tout ça, c'est phénoménal, hein, cette histoire en 6 tomes de sa vie. Voilà. Mais il a eu d'autres BD qui marchent. Il y a les Cahiers d'Esther, hein, où c'est une vraie histoire. C'est une petite fille. Alors je sais plus une petite fille, mais c'est au départ une petite fille qui lui raconte sa vie. Donc elle a commencé à 9 ans. Je sais plus à quel tome on en est, mais elle doit avoir 16 ans dans le dernier tome. C'est un tome par an. Enfin un tome par an. C'est un tome par année de sa vie à cette jeune fille. Donc ça, c'est les deux énormes succès. Puis il y a eu plein d'autres BD. Donc voilà, c'est bien qu'il l'ait. Il méritait vraiment Riyad Satouf. Alors il avait déjà eu 2 prix. Alors pour le coup, il avait eu 2 fois le Fauve d'Or, c'est la meilleure BD. Une fois pour Pascal Brutal. Alors, c'est une BD décalée où c'est pas toujours très bien, mais le mec qui joue, c'est une espèce de macho de balle, mais en même temps un peu faible. Et ben voilà, il y a plein de choses dedans. Et puis il l'avait eu pour l'Arabe du futur numéro 1 pour le premier tome. Voilà. Donc c'est une bonne nouvelle parce que c'est quelqu'un qui a du talent. Donc voilà, je voulais juste dire ça pour le monde de la BD qui est parcouru de pas mal de scandales. Un peu comme le monde du sport. Hein.
Surtout qu'en ce moment, il y a un hashtag MeTooBD pour rappeler aussi que c'est un secteur dans lequel il y a eu pas mal de sexisme et que les autrices ont eu du mal à exister.
Oui.
Non pas pour forcément se faire éditer, mais exister en tant que.
Mais aussi pour se faire éditer.
Qu'autrice. Certaines racontent des horreurs qu'ont faites d'autres, hein, auteurs de BD. Voilà, c'est surtout dans ce relationnel-là. Donc c'est aussi un secteur voilà, sur lequel la parole se libère. Ça, c'est aussi assez intéressant. Et je vais juste mettre peut-être une petite dissonance sur un de tes propos. Je ne suis pas sûre que les autres aient perdu. C'est un prix qu'on donne à des gens qui sont sélectionnés. Et puis, il y en a un qui l'a, et en l'occurrence, un homme cette année, et pas les autres, en l'occurrence, des femmes. Mais je ne suis pas sûre que tu perdes, en fait. Voilà.
C'est pas
une compétition.
C'est un peu une compétition, quand même.
Quand même, ça me gêne, cette manière de voir
le
monde.
Mais c'est ça, la réalité.
Bah, je ne sais pas. Donc, depuis que nous avons pris cette antenne, il y a eu un petit peu des augmentations sur cette pétition contre donc la réforme des retraites. Mobilisons-nous. Nous en sommes à 780 890 signatures. C'est encore pas le million, on en est loin, hein, malheureusement. Donc que dire, que nous nous retrouvons donc, comme je le disais au début, mardi 31 janvier, donc la semaine prochaine à 14h, donc devant la Manu, comme la semaine dernière, pour cette manifestation contre donc la réforme des retraites lancées par Monsieur Macron et Madame Borne. Alors aujourd'hui, il y a des grèves qui ont été lancées par le secteur de l'énergie à l'appel de la CGT du secteur. On a donc la CGT de Total Energy qui a lancé une grève avec de belles réussites, hein, dans certaines dépôts, dans certaines raffineries. On a la CGT des ports et des docks qui se lance, et puis à EDF et Engie aussi une réaction. On sait que c'est des c'est un secteur qui a à perdre, hein, avec cette réforme. C'est aussi un secteur d'activité dans lequel on a l'habitude d'avoir ces grévistes, mais qui n'ont pas envie de porter, comme d'habitude, tout l'effort de la grève. D'autant plus qu'on entend déjà les médias en train de nous dire qu'il va y avoir des ruptures d'approvisionnement en carburant. Oh là là, oh là là. On sent que, je suis sûre que certains d'entre vous, ont couru remplir le réservoir de la voiture pour éviter quelques soucis et de pénurie. Mais voilà, on commence déjà à nous parler de blocage, de chantage, de prise d'otage, tout ça, tout ça. Donc on sait que c'est pas facile dans le secteur de faire grève. Et en même temps, on sait que chez les électriciens, électriciennes et chez les gaziers, on essaye de proposer d'autres choses, hein, des coupures un peu intelligentes, où on va remettre justement en marche un compteur qui avait été coupé pour des impayés. Donc il y a aussi des tas de choses qui se passent qui sont peut-être moins, évidemment, médiatisées et plus au cas par cas, mais il y a des choses intéressantes. Et puis, il y a cette idée, je ne sais pas, moi j'appelle ça l'idée, le cul entre deux chaises. Mais vous vous ferez votre propre avis. C'est Madame Hidalgo, hein, maire de Paris, maire socialiste, Les socialistes qui sont bien embêtés avec cette réforme, comme je vous disais la dernière fois, un peu rapidement, je vous rappelle que c'est quand même aussi cette gauche hein, qui nous a ruiné une partie de nos droits à la retraite, en tout cas, qui l'ont reculé. Donc, on a appris qu'elle a annoncé sur France 2 que l'hôtel de ville de Paris serait fermé en solidarité le mardi 31 janvier. Mais en même temps, ce que j'appelle le cul entre deux chaises, c'est qu'il y a quand même des parties qui seront ouvertes, comme l'état civil. Donc, c'est pas une fermeture complète, hein, Madame Hidalgo s'engage. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que le personnel de la mairie pourra faire grève sans souci, puisque il y a une patronne qui va leur permettre de le faire. C'est pas vraiment leur patronne, mais vous voyez, va leur faciliter en tout cas leur absence. C'est Monsieur Roussel qui avait lancé cette bien bonne idée, qui est quand même une fausse idée. Mais bon, écoutez, on va prendre ce qu'il y a à prendre. En tout cas, du côté de Madame Borne, on se prépare activement aux discussions qui vont avoir lieu à l'Assemblée, hein, donc début février, du 7 au 17 février, si je ne me trompe pas. Je vous rappelle qu'il y a quand même une pratique un peu particulière. Alors, qui est dans la continuité hein, de ce qui se fait quand même depuis déjà quelques mois. Là, l'idée, c'est quand même de présenter un projet de loi qui va prendre la forme d'un texte rectificatif hein, au budget de la sécurité sociale. Donc, c'est pratique hein, pour le gouvernement, hein, parce que si jamais ça rentre dans ce budget sécurité sociale, bah, il pourrait y avoir un 49-3. C'est pratique, sauf que bah, c'est un texte budgétaire. Donc, du coup, ça pose quelques questions, puisque l'intégralité de la réforme ne peut pas rentrer dans cette ce texte budgétaire. Donc, il y a déjà le Conseil constitutionnel hein, qui a secoué la tête. Hein, c'est Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, qui a déjà mené une petite alerte auprès du gouvernement, hein, lequel a enchaîné à raconter cette affaire. Mais c'est vrai que ça pourrait y avoir un petit risque de censure. Alors, personne ne semble, malgré tout, très inquiet sur la question. En tout cas, c'est ce qu'on appelle un cavalier social. Hein. C'est une manière de te fourguer un truc qui n'a rien à voir dans le truc. Vous voyez ? Un texte ? Ça n'a rien à voir, on te le met dedans. C'est un peu une habitude ouais, hein, de certains gouvernements, mais en tout cas, c'est vrai que
tout le monde, je crois, l'a fait. Hein.
Ouais, tout le monde le fait. Mais c'est vrai que Monsieur Macron a des gouvernements qui quand même manient très très bien la chose. De toute façon, on ne saura pas le résultat de tout ça de ce texte du Parlement avant la fin mars hein, sur donc l'adoption du texte ou non. Hein, voilà. En tout cas, voilà, si jamais des dispositions ont été censurées, tout ça ne pourrait pas s'appliquer, mais qu'une petite partie. Donc, tout le monde reste quand même très optimiste hein, du côté de Renaissance et du gouvernement. Bon, voilà. Mais ça va quand même pas aider, surtout que a priori du côté de la France insoumise entre autres, il y a un peu un recul sur l'idée de noyer la réforme, vous savez, par le nombre d'amendements. Hein, c'est des tentatives aussi qui sont menées par l'opposition de gauche, hein, par cette NUPES, de tenter de noyer toutes les nouvelles propositions de loi pourries du gouvernement par un nombre d'amendements assez considérable. Mais c'est pas tant ça le problème aujourd'hui hein, de Monsieur Macron, c'est plutôt de la résistance à droite. Alors d'abord, il y a de la résistance à Renaissance. Hein, Barbara Pompili, Stella Dupont, par exemple, ont dit qu'ils n'étaient pas très favorables à cette réforme. Donc ça fait tâche à Renaissance quand t'as déjà des gens qui sont pas très fans. Et puis on a toujours le parti, le groupe hein, de Édouard Philippe, Horizon, qui fait des siennes. Alors il faut savoir qu'il y a toujours une bataille qui existe hein, entre Monsieur Édouard Philippe et Monsieur Emmanuel Macron. Les deux hommes et leur parti s'affrontent, en particulier pour les élections locales qui vont venir. Hein, c'est pas pour tout de suite, mais il y a une réorganisation qui voudrait se faire du côté de Renaissance pour gagner plus de terrain au niveau local, parce que c'est un peu toujours ce qu'on reproche à Renaissance hein, d'être un parti de l'élite et de pas avoir de fonds au niveau local. Et puis on sait que c'est comme ça aussi que les partis tiennent. C'est encore ce qui fait tenir hein, aujourd'hui à peu près le parti socialiste ou le parti communiste. Mais du côté de Horizon, donc on aimerait, là par contre on a un peu plus de présents au niveau local, donc il y a une bataille. Et cette bataille, elle se joue aussi sur les réformes de cette retraite, puisque on a un certain nombre d'élus comme Thierry Benoît en Ille-et-Vilaine, Yannick Favennec en Mayenne et Jean-Charles Larsonneur en Finistère qui s'opposent à cette réforme. Alors j'ai lu tout ça hein, dans Ouest-France, c'est pour ça que Hop, je vous parle du côté ouest de la France. Mais il paraît, d'après Yannick Favennec, hein, cité par Ouest France, qu'il y a d'autres membres de Horizon qui vont s'opposer. Alors, ça craint quand même pour M. Macron et sa clique, parce que ça veut dire que même des gens qui sont plutôt favorables normalement à ce gouvernement sont en train de s'opposer à cette réforme. Alors, vous allez me dire, ah, tu t'en cites que trois, Delphine. Oui, mais... Pour l'instant, il n'y a pas une belle majorité quand même, hein. Donc M. Macron a besoin de tout le monde. Donc on a du côté, par exemple, de Jean-Charles Larsenoir, lui, il dit qu'il est guère enthousiaste, hein. Alors lui, par exemple, il veut bien réformer le système des retraites, parce que ça rendrait la réforme... Il faut faire quelque chose contre le déficit, c'est ce qu'il explique. Mais il trouve qu'il n'y a pas d'ambition, hein, face à cette réforme, et puis que la démarche est assez brutale, je le cite. Lui, ce qu'il aimerait, c'est que le gouvernement supprime l'âge légal de départ pour ne conserver que la durée de cotisation de 43 années.
Ce qui est déjà une catastrophe.
Oui, mais je veux dire, voilà, lui, c'est sa proposition, avec un mécanisme de décote.
Mais ça, c'est la loi Touraine avant. Hein.
Ouais,
vous savez, la socialiste, la traite.
Ouais, ouais.
Ouais, qui nous a déjà bien eu.
Donc, lui, il explique que je réserve mon vote qui n'est pas acquis. Donc, ça, là, vous voyez, la prise d'otage, le chantage, vous le voyez. Hein. Du côté de Favennec, on dit que les Français ont besoin de lisibilité. Ah, la pédagogie n'est pas loin. Que cette réforme, elle n'est pas claire sur les carrières longues, la pénibilité, la retraite des femmes, les pensions de réversion. Lui aussi, il dit, je le cite, si rien ne bouge, ce sera non pour moi. Du côté de Thierry Benoît, on est dans la même idée. Alors, lui, il veut restaurer la confiance avec les Français. La pédagogie n'est jamais encore très, très loin, là, non plus. Lui, il demande un report des mesures pour qu'il y ait plus de discussions et de débats. Et il dit, je ne voterai pas n'importe quoi. Voilà. Donc, on sent qu'il y a quelques problèmes. Et puis, du côté des LR, hein, des Républicains, Monsieur Éric Ciotti, je vous rappelle qu'il est le nouveau président du parti, Olivier Marleix, qui est le président de groupe LR, eux ont assuré qu'ils allaient voter cette réforme. Mais de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que... je veux dire, c'est toujours eux, hein, ce parti, UMP, je dis eux, parce que LR, UMP et tout ça, qui ont toujours... je cherche un mot poli, casser notre système de retraite pour qu'on aille toujours plus travailler, parce que de toute façon, hein, du côté de la droite, c'est bien ça l'idée, hein, c'est toujours de la valeur du travail, longtemps. Bon, vous allez me dire, du côté du communisme avec M. Roussel, on est un
c'est
peu
pareil.
Sur cette idée, hein, aussi. On a beaucoup entendu parler de valeur du travail. Après, on agresse celle qui parle de paresse, comme si jamais c'était un mot absolument horrible. Donc, en tout cas, ce qu'on a appris, alors, c'est, d'abord, on a eu le journal du dimanche, et puis, là, il y a eu France Inter qui a fait un petit sondage. Alors, il y a le journal du dimanche qui avait fait un sondage et qui avait évolué à 13 le nombre de députés LR qui n'allaient pas voter cette réforme des retraites. Et puis mardi, là, cette semaine, France Inter a fait un nouveau calcul et il y aurait 16 opposants dans les Républicains contre cette réforme. Encore une fois, chaque voix compte, hein, pour Madame Borne. C'est extrêmement important. Donc, ça pue un peu quand même, hein, du côté. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas changer d'avis, hein, évidemment, ces députés. Hein. Mais surtout, il y a ce qui est très drôle dans cette affaire, c'est qu'il y a une partie des députés qui n'ont pas répondu à l'appel de France Inter, parce qu'il paraît que M. Ciotti a envoyé un SMS la semaine dernière, avant l'enquête, en disant « Inter fait une enquête pour connaître votre intention de vote et pouvoir afficher une division chez nous, il est totalement inutile de répondre. » Donc une partie des Républicains n'ont pas suivi, donc ça demande de Ciotti. Je vous rappelle que Ciotti, il n'est pas non plus élu fortement. C'est quand même un parti qui a toujours une tête. Hein, c'est ce parti qui se veut encore gaulliste, on ne sait plus bien pourquoi. Il y a toujours une tête, hein. Il y a eu De Gaulle, on a eu Chirac, hein, on a eu ces têtes comme ça. Et là, il n'y a plus de...
Laurent. Laurent Wauquiez qui est tapis dans l'ombre.
Mais il est tapis pour l'instant. En tout cas, il n'y a pas une tête forte qui vient donc marquer de sa prestance et d'imposer son autorité chez les Républicains. Ce qui fait que, bah, évidemment, ça part un peu en cacahuète. Et puis, de toute façon, les Républicains sont bien emmerdés parce qu'ils souhaitent être dans l'opposition. Et sur ce texte, ils ne peuvent pas l'être puisque le parti, quel que soit son nom, quelle que soit son histoire, a toujours soutenu qu'on aille bosser plus longtemps, qu'on crève au travail. C'est ça, hein, l'idée de cette droite conservatrice. Donc ça gêne. En plus, ce qui se passe du côté des Républicains, c'est que c'est un parti qui, justement, c'est ça aussi dont je vous parlais tout à l'heure, est extrêmement présent encore au niveau local, et en particulier dans des territoires ruraux. Et il y a des endroits où il y a des vieux, et même dans les territoires ruraux, ou dans des petites villes qui n'ont pas du tout envie d'aller partir à je ne sais pas quel âge, à 67 ans, à la retraite. Donc du coup, ça cause hein, auprès de, aussi de ces députés ou de ces élus locaux qui ne sont peut-être pas députés. Donc du coup, ça remonte aussi hein, dans les instances et ça fait du bruit. Et puis surtout, dans certains de ces villes, il y a la concurrence du Rassemblement National qui, alors là, flotte magnifiquement quand même hein, dans ses idées. Hein, alors on a Madame Le Pen qui nous fait des tweets en nous expliquant que ah oui, c'est bien d'aller lutter.
Ouais, non, mais ils sont dans le.
Mais en même temps, ils vont voter toutes les dans merdes de droite.
Ouais, c'est ça.
Contre les travailleurs et les travailleuses.
Ils font semblant en permanence, du coup.
Donc, à la fois, ils ont l'air.
Ils emmerdent, du coup, la droite.
Ben, ouais, parce qu'ils flottent entre soutien, incompétence, vote de droit, le travail c'est la santé, mais quand même c'est bien d'être dans la rue, donc tout ça est assez incompréhensible et très bien, hein, ça brouille le message. En tout cas, il y a une concurrence hein, entre LR et RN dans certains territoires, et là aussi on a des députés, des élus de territoires qui sont bien emmerdés avec cette loi, parce qu'en même temps, bah, peut-être qu'ils la soutiennent, mais qu'en même temps, bah, la politique c'est quand même un métier, et il faut y rester, donc tout ça est quand même compliqué. Et puis... on nous dit, donc les vieux, il va falloir vous recadrer, parce qu'à un moment, certains et certaines d'entre nous...
Vous recadrez
vous, dans un nouveau métier, ah, tu oui. sais, il faut aller ailleurs.
Recaser, quoi.
Ouais, recaser, recadrer, ça, voilà, si tu veux. Ouais. En tout cas, il va falloir nous former, parce qu'on ne pourra plus faire physiquement, paraît-il, et puis peut-être intellectuellement aussi, certains des métiers que nous pouvons faire plus jeunes... ou à maturité. Donc on nous dit qu'il va falloir nous former hein, pour retrouver du travail. Alors, en ce moment, il y a de retour un petit peu du débat et de la discussion. Peut-être que vous n'aviez pas fait attention, mais il y a eu un petit texte qui est passé sur le CPF. Hein, vous savez, votre compte professionnel de formation. Vous voyez bien.
Le truc où maintenant il faut payer.
Alors, c'est pas passé le décret. Mais c'est ça dont je vais vous reparler. Histoire que vous vous remettiez bien l'idée qu'effectivement il faut mardi aller peut-être manifester quand même hein. Enfin on va enlever le peut-être, on va aller manifester. Hier se tenait à Cannes l'université d'hiver de la formation professionnelle au palais des festivals de la ville, donc madame la ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, madame Grandjean, Carole Grandjean, s'est rendue donc sur place et a dû aller serrer des paluches pour aller parler de cette grande idée qui est passée l'air de rien comme ça au mois de décembre. Parce que ça fait quand même un mois que ça discute un peu hein, entre les députés, les partenaires sociaux, les syndicats et surtout donc les organismes de formation qui voient quand même les pépettes aussi se barrer. Puisque je vous rappelle que depuis 2019, votre compte personnel, j'ai dit professionnel tout à l'heure, hein, c'est compte personnel de formation. Avant vous aviez des heures, puis maintenant il y a des euros. Alors on a déjà beaucoup critiqué hein, cette transformation d'heures en euros parce que du coup ça monétise quand même l'affaire. Donc tout est devenu plus cher. Parce que, alors, le compte, du coup, c'est vrai qu'il a été ouvert, il a été mis à notre disposition. On peut aller nous-mêmes être autonome hein, et aller cliquer et chercher des formations. Le problème, c'est que toutes les formations ont augmenté. Et puis, il y a eu un certain nombre, évidemment, d'escroqueries aussi.
Ah oui, c'est énorme.
Qui ont beaucoup été hein, racontées par les médias sur ces comptes formation, avec de fausses formations, des formations aléatoires, enfin bon, même du vol hein, d'euros. Sur nos comptes, tout un tas donc de systèmes sur lesquels effectivement le gouvernement s'est dit mince, ça marche trop bien, on a été obligé d'en mettre de l'argent, ça pose des soucis, hein, parce qu'évidemment il y a les profiteurs officiels, puis il y a eu les profiteurs, les escrocs derrière. Donc tout le monde se fait un peu du souci hein, chez les profiteurs légaux, on va dire, des formations, et on aimerait bien que du coup le gouvernement fasse marche arrière, puisqu'en décembre, discrètement, il y a une mesure qui a été votée en rendant le CPF en partie payant, c'est-à-dire que tu aurais comme un reste à charge, c'est ça qu'il faut comprendre. L'idée c'est en fait de nous responsabiliser.
Parce que quand c'est gratuit, tu peux pas être responsable, c'est ça?
Bah non.
Quand t'as pas à payer, c'est gratuit. C'est pas gratuit, mais c'est de l'argent finalement issu de ton travail qui payait. Là, non, c'est pas
alors,
bien.
Alors, comme le rappellent les syndicats, hein, le problème du reste à charge, c'est que ben, les plus pauvres d'entre nous...
Eh ben, ils vont pas faire
de formation. On ira. Alors, ça ne touchait pas les chômeurs et les chômeuses hein, quand vous étiez inscrit à Pôle emploi. Donc, voilà. Mais en tout cas, quand t'étais... quand t'es précaire, travailleur et travailleuse pauvre, t'as du mal à aller voir ton patron pour lui dire « Bonjour, je voudrais, au fait, m'absenter. » Et puis, quand t'as des contrats d'intérim, par exemple, ou quand t'as des contrats CDD précaires, eh ben, c'est pas facile de poser une formation, parce que ça veut dire qu'à un moment, il faut aussi trouver le temps. Donc, si en plus il faut que tu ailles payer de ta poche un petit bout, bon bah laissons tomber. On va plus dire que les plus pauvres, les plus précaires, les plus vieux et puis les femmes vont encore une fois être sanctionnés. Et alors quand on nous dit qu'en plus à la retraite, il va falloir, à l'approche de la retraite, il va falloir se former, c'est-à-dire les plus de 50 ans, les précaires, les pauvres et les femmes, autant vous dire que le système bah il tombe mal en fait. Bon. Voilà, donc c'est encore une idée de quand même d'aller surveiller tout ça. Et puis juste pour terminer sur cette question de quand même le gouvernement qui se fiche bien notre gueule. Donc là, les chiffres sont magnifiques. Le chômage a baissé dans notre pays. Ouh, on est content, on sort les pouettes-pouettes et les tagadas et on est très heureux. Bon, heureusement, il y a quand même quelques médias qui se sont posé la question. Dites-moi, ça n'a pas baissé parce qu'il y a eu plein de radiations,
hein. Ouais, chut, faut pas le dire.
Et chut. Alors si, ça s'est dit, hein, c'est justement ça qui est bien. C'est que effectivement, il y a eu une augmentation des radiations, hein, des inscrits et inscrites à Pôle emploi. Alors du côté de Pôle emploi, on dit, non mais attendez, ils sont jamais radiés bien longtemps les gens. Sauf qu'on sait que c'est pas si simple que ça la vie, hein. On sait qu'il y a des tas de gens déjà qui s'inscrivent pas à Pôle emploi parce que c'est compliqué, parce qu'ils pensent qu'ils auront droit à rien et parce que justement
il y a plus de la moitié qui sont même pas indemnisés.
Et voilà, et qui n'ont besoin de rien. Donc pourquoi aller se réinscrire quand de toute façon tu te fais chier.
T'es sûr de pas avoir. Ouais.
Voilà, bah je veux dire, tu laisses tomber, hein, parce que t'as des obligations quand même. Hein. Si toi qui m'écoutes, tu ne t'es jamais inscrit à Pôle emploi. Tant mieux. Okay. Mais sache que en fait, voilà, il y a quand même des obligations, hein, mensuelles. Bon, alors, c'est pas très compliqué, mais malgré tout, ça t'engage tous les mois à faire certaines choses. Parfois, à avoir un conseiller ou une conseillère qui te reçoit. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours très utile. Parfois, ça l'est. Voilà, c'est mal fait, hein, des fois Pôle emploi quand même, il faut le dire. Mais il y a toujours. On rappelle qu'il y a pas assez de personnel, hein, aussi à Pôle emploi, donc c'est difficile de faire du job correctement. En tout cas, voilà, il y a de la radiation. Donc, bon, je disais juste. Peut-être qu'on peut mettre dans la balance tout ça et puis compter un peu mieux.
T'as fini ?
Ouais.
Alors, c'est à moi. Je vais parler de Roger Waters, puisqu'il y a une campagne à l'œuvre contre lui depuis pas mal de temps et qui a rebondi aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas Roger Waters. Et c'est cette nouvelle tournée qui se fait pas mal désinguer en ce moment par la presse allemande, enfin une partie de la presse allemande qui désinforme d'ailleurs pas mal sur le sujet. Et c'est en général, et dans ce cas plus particulier, systématiquement, à cause du soutien de Roger Waters à la cause palestinienne et surtout à la campagne BDS, la campagne qui incite à boycotter les entreprises israéliennes qui collaborent avec l'État ou avec la colonisation. Et on tombe sur des trucs complètement dingues, même sur des sites francophones. Tout à l'heure, je suis tombé par hasard sur le site I24 News et on peut lire en titre sur le site « La tournée des Pink Floyd provoque des remous en Allemagne ». Bon, là déjà on se dit... Le journaliste, il n'est pas journaliste, hein, parce que Roger Waters, il n'est plus dans les Pink Floyd depuis 38 ans, quand même. Et, hein, il est chanteur solo depuis 38 ans. Bon, le mec, il est nul. Et la suite, je cite, « Le chanteur du groupe Pink Floyd, Roger Waters, militant du BDS, connu pour ses positions anti-israéliennes et antisémites, va entamer avec le groupe une tournée en Europe au printemps, dont 6 concerts en Allemagne. L'organisation d'événements promouvant les discours du BDS à l'aide de fonds publics étant illégale dans le pays, des appels pour empêcher Roger Waters de se produire sur scène se font entendre. Alors là, c'est un vrai truc de désinformation que fait I24 News, parce que il défend la cause palestinienne, il défend BDS, mais il n'est pas antisémite. Et moi, j'ai jamais entendu de propos antisémites, d'ailleurs il aurait été attaqué et condamné, de la part de Roger Waters. Et alors, c'est aller plus loin, puisque il y a un commissaire contre l'antisémitisme à Berlin, et il joue deux jours à Berlin, en fait. Et il y a une association germano-israélienne qui s'appelle Berlin et Brandebourg, qui ont interpellé l'organisateur du concert, et notamment le stade de Berlin dans lequel il joue, qui s'appelle le stade Mercedes-Benz. Oui, ça s'invente pas, c'est ridicule, mais bon, c'est comme ça. Et en leur demandant d'annuler les deux concerts en raison des positions du chanteur. Le propriétaire de ce Mercedes-Benz Arena là a rejeté la requête en disant non, qu'ils étaient bien au courant des positions de Waters, mais qu'ils avaient l'intention de remplir leurs obligations contractuelles avec le promoteur qui avait réservé la salle. En gros, barrez-vous, j'ai rien à vous dire. Alors, ce qu'on voit dans cette campagne, c'est que ça embête Israël et les amis de la colonisation israélienne, parce que Roger Waters est relativement connu quand même. Il fait des tournées dans des stades, il remplit vraiment des stades, hein. C'est assez impressionnant. Et donc du coup, quand il parle de la situation israélo-palestinienne, eh ben ça peut convaincre des gens. Et ça énerve donc les défenseurs de la colonisation israélienne. Alors, on va pas défendre Roger Waters jusqu'au bout. Roger Waters, il est parfois ultra caricatural, il est parfois ambigu, et parfois c'est juste une grosse merde finie. Je vous rappelle que l'année dernière, lorsque l'Ukraine a été attaquée par la Russie, il avait défendu la Russie et attaqué Volodymyr Zelensky en disant que c'était à cause de Volodymyr Zelensky parce qu'il avait toléré un nationalisme extrême. Alors, on rappelle que c'est la théorie de Poutine, et ce que reprenait Waters, c'était la théorie de Poutine en disant on attaque l'Ukraine parce que c'est un gouvernement nazi. On rappelle, l'extrême droite en Ukraine existe, comme malheureusement partout, mais elle fait quelques pourcents seulement. Aux dernières élections, ils ont fait moins de 2%, je crois. Et en tout, si on prend toutes les forces, Svoboda, le truc, enfin tous les mouvements, c'est moins de 5%. On rappelle que l'extrême droite en France, dernière élection, voilà, ça a fait pas mal, et qu'il y aura à peu près au moins 25 à 30% de la population qui soutiendra l'extrême droite en France. Donc, parler de l'extrême droite pour parler de l'Ukraine, c'est reprendre les propos de Poutine. Il avait défendu Poutine, et ça lui avait joué des tours, puisque ça avait énervé notamment la Pologne, qui a très très peur de se faire à nouveau envahir par la Russie, comme il y a une cinquantaine d'années, et qui avait donc finalement annulé les concerts de Roger Waters. Et je dirais que c'était mérité, même si ça m'énerve quand on annule des spectacles et qu'on censure quelque part. Mais il avait fait de la provoque, et il avait récupérer le résultat de sa provoque en défendant Poutine. Hein, on rappelle que c'est pas la même chose que de défendre la cause du peuple palestinien, qui mérite bien mieux qu'un imbécile défenseur de Poutine, ceci dit. Voilà. Donc, c'était pour parler de Roger Waters. Et puis, je vais rester en Israël-Palestine, du coup, on enchaîne. Puisque l'année 2023, on est le 26e jour, et ben du coup, elle débute comme 2022 s'est achevé, c'est-à-dire sur un bilan ultra triste, ultra macabre dans les territoires palestiniens en raison des violences de l'occupation israélienne. Depuis le début de l'année, 29 Palestiniens ont été assassinés, tués, abattus par des militaires ou des colons juifs, tout ça donc en général en Cisjordanie. Ça fait quand même beaucoup. Dans ces 29 Palestiniens, il y a 5 enfants. Voilà, j'imagine des terroristes potentiels, hein, c'est l'excuse qui est donnée par l'État israélien. On en est donc à peu près un peu plus d'un mort par jour pour ce mois de janvier. Donc ça commence très mal, et c'est pire que l'année dernière, qui est pourtant une des années records depuis la deuxième intifada. Hein, il y a une vingtaine d'années, il y avait un peu plus, 23 ans peut-être, la deuxième intifada, la grosse rébellion contre l'occupation, où il y avait eu pas mal de violences, et donc pas mal de réactions violentes de l'armée israélienne. Là, en un an, on a eu 144 morts, si on suit les chiffres de l'ONG de défense, l'ONG israélienne de défense des droits de l'homme, qui s'appelle B'Tselem, et les autorités palestiniennes, elle en aurait compté un tout petit peu plus, 170. Quel que soit le chiffre, c'est une année terriblement meurtrière qui a été donc 2022. Alors bien évidemment, l'armée israélienne affirme toujours qu'elle ne tue que des combattants armés. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une dame âgée hein, qui a été assassinée par l'armée. Même le journal Haaretz, dont le journal israélien, qui est certes de gauche, avait écrit en gros faux une fois dans un article, en disant que c'était moins de la moitié des Palestiniens de 2022 qui avaient une arme sur eux. Donc il y en a au moins une moitié qui avait rien, donc qui représentait aucun danger pour un soldat. Hein, voilà. Donc en général, c'est des civils victimes collatérales de l'occupation israélienne. Et bien sûr, aucune poursuite derrière, on en avait parlé il n'y a pas bien longtemps, moins de 1% des plaintes déposées par les Palestiniens contre les soldats se terminent par des mises en examen. 99% des soldats sont donc protégés, c'est plutôt pas mal. Et aujourd'hui, parce que c'est l'actu du jour, les forces armées israéliennes d'occupation sont intervenues dans Jenin, ville où il y a un camp de Palestiniens du nord hein, de la Cisjordanie. Donc ils ont attaqué comme des sauvages, comme d'habitude, dirons-nous, et ils ont tué 9 personnes au minimum. Officiellement, c'est qualifié de heurts avec les Palestiniens. Alors, heurts, c'est plutôt un massacre. Hein. Quand t'arrives et que t'en tues 9, déjà, c'est pas mal. Même les autorités palestiniennes ont dénoncé, je cite, un massacre face auquel la communauté internationale est restée silencieuse. C'est vrai, pour l'instant, on va voir ce qui se passe, mais en général, la communauté internationale ne dit plus rien. Selon le ministre de la Santé palestinien, en plus des 9 morts, il y a au moins 20 personnes qui ont été blessées par des tirs à balles réelles et qui sont soignées actuellement. C'était le camp de réfugiés hein, qui est dans la ville de Jenin qui était visé. Alors bien sûr, Israël se justifie, toujours la même justification. Oui, alors ils disent pas qu'ils ont tué personne, ils disent juste c'était nécessaire d'intervenir pour, je cite, déjouer les plans d'attaque imminentes d'une branche locale du groupe terroriste du djihad islamique en Palestine. Ils avancent ça toujours comme ça et ils sortent jamais aucune preuve. Donc, s'ils avaient des preuves, ils les sortiraient, bien évidemment. Comme ça, on pourrait pas les accuser, ils les sortent jamais. Donc, ça veut dire que, on imagine bien que tout ça est sûrement très inventé, très imaginé, malheureusement. Alors. Au mieux de tout ça, le nouveau gouvernement israélien mené par l'extrême droite cherche à assouplir les règles concernant les soldats pour qu'ils puissent tirer plus facilement. Donc vous imaginez, pour l'instant c'est pas assoupli, c'est déjà la catastrophe. Alors, bizarrement, il y a des officiers au sein de l'armée qui s'y opposent. Alors, bien évidemment, c'est pas pour protéger les Palestiniens, ça, ils en ont rien à faire, mais c'est pour les apparences. Parce que Israël met en avance tout le temps que leur armée, c'est la plus morale du monde. Alors, après le massacre d'aujourd'hui des 9 Palestiniens, c'est compliqué. Et eux, ils disent, faut pas autoriser plus de tirs, parce que sinon, on va avoir du mal à défendre ça. Ça nous fait rire. Mais s'il n'y avait pas les morts derrière, ça nous ferait rire. En fait, ça ne nous fait pas rire du tout. Et on rappelle qu'en même temps, en ce moment, des dizaines de milliers, il était plus de 100 000, je crois, la dernière fois, d'Israéliens manifestent contre ce gouvernement d'extrême droite, hein, le plus à droite du pays, mais vraiment à l'extrême droite, puisque c'est l'extrême droite qui, bien que minoritaire, a un, les postes clés, deux, peut tout gérer, puisque si elle s'en va, l'autre, Netanyahou, il n'a plus la majorité. Donc c'est bien l'extrême droite qui gouverne, et c'est triste. Et toujours en lien avec la Palestine, c'est toi qui m'avais parlé de l'affaire, et je vais en parler un petit peu, mercredi prochain, on sera le 1er février, la ville de Lyon organise une conférence qui s'appelle « 30 ans après la signature des accords d'Oslo, regard sur la Palestine ». Les accords d'Oslo, c'est les accords de paix qui devaient permettre de créer un État palestinien. 30 ans après, il ne reste rien, tout est écrasé. Israël n'a rien respecté. Donc cette table ronde réunit des gens qui interviennent comme ça. Il y aura Aber El-Saka, qui est sociologue et professeur associé à l'université de Berzeit. Il y a Jean-Claude Samoulier, qui est président d'Amnesty International France. Il y a Benoît Van Kersblik, qui est membre du comité des droits de l'enfant des Nations Unies, pour parler de la situation israélo-palestinienne sur ces 30 années d'accord d'Oslo. On savait que c'était une erreur, hein, les accords d'Oslo. Au début, on y croyait quand même un petit peu, et puis finalement, ça a été une catastrophe. Et participe aussi quelqu'un dont on parle régulièrement dans le Canu Info, l'avocat franco-palestinien Salah Amouri, dont on a parlé de l'expulsion il y a pas bien longtemps, qui fait partie donc des invités. Et pour les propagandistes, les amis d'Israël, c'est inadmissible. Parce que Salah Amouri, c'est un méchant terroriste. Oh putain, vous allez me dire, il est avocat, tout ça. Oui, mais en fait, il défend des gens là-bas, et l'attaque d'Israël, traditionnellement, c'est de le traiter de terroriste. Ils disent qu'il est membre du FPLP. Alors, moi, je trouve ça positif d'être membre du FPLP, mais le FPLP, ils ont fait des actions violentes, hein, comme toute organisation de résistance, mais c'est considéré comme une organisation terroriste, donc effectivement, c'est un peu mal vu. Comme les résistants en 39-45 qui étaient considérés comme des terroristes. Hein. On est dans la même situation de résistance par une occupation. Et donc, c'est mal vu de faire venir Salah Amouri pour tous les défenseurs d'Israël. Donc, il y a pas mal d'attaques sur la ville de Lyon qui organise ça. Il y a eu des réactions, des réponses et la ville a décidé de maintenir la présence de Salah Amouri. C'est plutôt rassurant. On rappelle que il a été obligé de plaider coupable à un moment en Israël. Au lieu de prendre 14 ans de prison, il en avait pris 7, donc il a plaidé coupable, mais ça ne veut pas dire qu'il était coupable, hein. C'est le truc pourri du plaidé coupable. Il a fait de la prison sans aucune raison, enfin voilà, il a été pas mal brimé par Israël. Et puis, en France, il y a toute la droite aussi, hein, qui s'y met. On a Laurent Wauquiez qui attaque Amouri, qu'il qualifie, je cite, d'incarnation même de la violence et de la haine antisémite. Alors, on rappelle qu'il a jamais blessé, tapé qui que ce soit, jamais fait d'acte de terroriste, et qu'il a jamais tenu de propos antisémites. Celui qui ment, qui invente, c'est Laurent Wauquiez. Il y a l'avocat lyonnais Alain Jakubovic, l'ancien président de la LICRA, qui attaque les Verts, notamment, puisque c'est le maire de Lyon, sur l'idée de défendre la cause palestinienne. Donc voilà, la ville de Lyon a rappelé qu'il s'était aligné sur les positions diplomatiques françaises et européennes, qui a condamné, on rappelle les deux, l'expulsion de Salah Hamouri d'Israël il y a à peu près un mois. Donc ceux qui respectent pas les choses, c'est plutôt Jakubovic, c'est plutôt Wauquiez, c'est plutôt, alors il y a Reconquête qui est allé aussi, toute la droite et l'extrême droite et les aficionados de la colonisation israélienne qui sont montés au créneau, mais pour l'instant ça tient.
Alors on va reparler politique française avec quelques informations du cru si vous voulez bien. D'abord cet article de Mediapart qui personnellement je trouve racle un peu le fond, mais qui est nécessaire. Il s'agit du député Emmanuel Pellerin de Renaissance dont Mediapart rappelle et rapporte surtout la passion un poil excessif pour le cannabis et la cocaïne. Alors, entendons-nous bien dans cette émission, monsieur Emmanuel Pellerin peut bien se mettre tout ce qu'il veut dans le nez, fumer tous les pétards, les joints, la beuh et le cannabis qu'il veut, ça s'en fiche. Mais par contre, quand on est à Renaissance, c'est qu'on est à côté de monsieur Darmanin, qui prône une répression sans faille contre les fumeurs et les fumeuses de tamiens, de pétards, de joints et tout ça, ça fait mal. Hein, parce que il faut être propre quand on est à Renaissance, il faut être pur, hein. Peut-être qu'on a le droit de picoler, par contre, la drogue, c'est non. Alors c'est bien aussi pour ça que Mediapart rappelle cette affaire, c'est que on en a un qui s'est fait coincer, hein, le rail dans le nez. Donc il a expliqué, parce qu'en plus le pauvre Emmanuel Pellerin, il a dû se justifier, donc évidemment... il explique que c'est qu'il a eu des difficultés personnelles et familiales. Parce qu'un jour, on trouvera un député, un Renaissance, qui va vous expliquer qu'il avait juste envie de s'amuser en se mettant un petit rail de coke dans le nez samedi soir, parce que putain, c'est compliqué d'être député quand même, surtout à Renaissance, que M. Macron demande beaucoup et qu'il faut être fort perpétuellement. Donc il a expliqué qu'il fumait et prenait des drogues de manière occasionnelle, à l'occasion de dîner et de soirées. Là où je trouve que Mediapart irait un peu le fond, c'est qu'ils vont aller chercher hein, quand il s'est arrêté, quand, à partir de quoi, son entrée en politique, juste avant, deux jours avant, deux heures avant, bon vous voyez ça on n'en a pas besoin. Par contre c'est bien de rappeler que ce parti anti-drogue qui continue à axer sa lutte contre les drogues, contre une répression et non pas un accompagnement de certains et certaines qui ont certainement besoin d'être accompagnés psychologiquement, médicalement, pour éviter de tomber dans un abus face à certains produits. C'est intéressant quand même. Hein. Donc, en tout cas, là, le parti se demande donc s'ils vont pas le virer. C'était ça, la chute de l'histoire. Donc, je pense qu'il va être viré, Emmanuel. Voilà. La suite hein, des petites affaires judiciaires de monsieur Michel Mercier dont on n'avait pas beaucoup parlé dans cette émission. Je vous rappelle qu'il y a eu une ouverture d'une enquête en août 2017 par le parquet national financier contre donc monsieur Michel Mercier. À l'époque, il avait donc renoncé à intégrer le Conseil constitutionnel. Il avait quitté son poste de sénateur et celui de maire de la commune de Tizy. Hein, donc c'est dans le Rhône, hein, c'est pour ça aussi qu'on le connaît. Monsieur Mercier. Donc il a été condamné aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Paris à 3 ans de prison avec sursis pour avoir octroyé des emplois parlementaires fictifs à son épouse et à une de ses filles. Alors on rappelle, hein, Michel Mercier, c'est l'ex-garde des Sceaux, ancien ministre de Nicolas Sarkozy entre 2010 et 2012, donc aussi quelqu'un qui connaît un petit peu hein, quand même les ordres de la République. Donc il s'est rendu coupable de détournement de fonds publics dans le cadre de ses fonctions de sénateur. Il a versé 50 000 euros à Joël, son épouse, entre 2005 et 2009, et 37 000 euros à Delphine, sa fille, l'une de ses filles, entre 2012 et 2014. Donc, il avait expliqué que sa fille, elle était sa conseillère culturelle. Bon, à l'époque, elle ne mettait pas les pieds hein, au Sénat, elle vivait à Londres. Ça n'avait pas bien fonctionné quand même, cette défense. Et puis, pour son épouse, hein, expliquer donc les 50 000 balles dont je viens de vous parler, il paraît qu'elle le représentait au moment des kermesses et des enterrements. Voilà, je fais toujours des petits blancs, j'aime bien, comme ça vous atteint au cerveau quand même. Bon, il est aussi, depuis 2019, mis en examen dans l'affaire des assistants des eurodéputés du Modem. Voilà, à côté de M. Pérou. Parce qu'entre copains, C'est plus sympa.
Ah oui.
Et puis, on a appris quand même tout un tas d'affaires hein, sur cette crise au Parti Socialiste. On a donc appris que lundi, un huissier s'est rendu donc, au siège du Parti Socialiste à la demande de la direction du parti pour éviter les suspicions de fraude. Parce que cette élection de la tête du parti s'est faite dans la douleur quand même. Hein. Y a même des articles, comme dans Ouest France, dans les pages débat, vous savez, c'est les pages opinion, où on se demande, le Parti Socialiste va-t-il disparaître, ça m'a fait rire. Bon, il a un peu disparu quand même. Bon, pas tout à fait, mais enfin, bon, quand même, c'est pas top top. Donc, je vous rappelle, hein, il y a eu un vote des adhérents et des adhérentes le 19 janvier dernier. Il y a eu une commission de recollement pour arriver à savoir qui c'est qui a gagné. Vous allez me dire qui c'est. Mais au final, on s'en fiche un peu, non? Hein? Allez, je vous le dis quand même, hein, au cas où vous auriez peut-être pas réussi à suivre tout ça. C'est Monsieur Faure qui a gagné, Olivier Faure, avec 51,09% des voix. C'est tendu, hein. Donc, son opposant, le maire de Rouen, Nicolas Meyer-Rossignol, conteste lui le résultat. Il a demandé un recomptage. Il explique qu'il y a eu des fraudes. Donc, l'huissier est venu. Il paraît qu'il a repris un tableau Excel des résultats de la commission de recollement et puis l'ensemble des procès-verbaux établis par chaque fédération et qu'il n'a pas trouvé de problème. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est en train maintenant de remonter de cette élection au Parti Socialiste, c'est qu'il y a eu des petits problèmes. Hein, parfois, on en est venu aux mains quand même, hein, dans certaines sections et fédérations. Alors par exemple, même l'huissier hein, a rapporté qu'il y avait eu des incidents lors de cette élection et que à Liévin, dans le Pas-de-Calais, il y a 22 bulletins présents avant l'arrivée du surveillant qui ont été retranchés au score d'Olivier Faure. Parce qu'il paraît que là-bas, ça ne s'est pas super bien passé. En Seine-Maritime, dans la section de Mont-Saint-Aignan, de ville, il y a des votes qui ont été annulés pour motif suivant, ça c'est l'huissier qui le raconte, violence et intimidation constatée avec un procès verbal de constat. C'est-à-dire que il y a eu quand même des endroits où y en a qui sont venus avec un huissier parce qu'on leur avait interdit de voter. Il y a des gens qui ont été intimidés, donc ils ont appelé la police municipale pour les accompagner.
C'est ridicule quand même.
Donc c'est quand même absolument... Oh, moi, je trouve ça super chouette de voir le Parti Socialiste hein, quand même en venir aux mains. Je trouve ça quand même, il leur reste encore quelques choses. Et puis, je termine rapidement, comme ça, tu pourras, j'espère, faire une dernière information.
Très courte.
Très courte, ton information, parce que la mienne va être un peu moins courte. Mais j'espère pouvoir te laisser 2 minutes. Mercredi, il y a eu au Sénat un débat assez mouvementé. Il y a une cinquantaine donc de sénateurs et sénatrices qui étaient présents et qui ont fait face à un cavalier législatif. Hein, c'est ma journée équitation. C'est donc un amendement. Hein, je vous le disais comme tout à l'heure.
Rajouter un projet qui a rien à voir.
Voilà. Et là, donc, c'est un nouvel échec pour Monsieur Macron dans sa tentative de maintenir la présidente Catherine Pégard, 68 ans, dans l'établissement public de Versailles, hein, au poste qu'elle occupe depuis 2011. Je vous rappelle que Catherine Pégard, si vous l'aviez oublié, était conseillère hein, de M. Sarkozy. Elle est ancienne journaliste du Point. Et là, donc, elle est devenue la copine de M. Macron. Et elle est maintenue artificiellement à la tête de l'établissement, puisqu'elle devait s'en aller. Et donc là, elle est patronne par intérim. Normalement, on aurait dû lui trouver un successeur ou une femme qui aurait pris sa place. Mais pour l'instant, au niveau de l'Élysée, on ne donne pas suite. Donc, on aimerait bien qu'elle reste là. Alors, la petite manière qui avait été faite, ça a été de mettre un amendement dans le cadre des projets de loi sur les Jeux Olympiques. Puisqu'il a été décidé, dans un article 15 de ce projet de loi sur les Jeux Olympiques, que si jamais, dans les établissements qui accueillent des Jeux Olympiques, ce qui va être le cas avec Versailles qui va avoir des compétitions d'équitation, et ben le président directeur d'établissement qui devait s'en aller pourrait rester jusqu'au 31 décembre 2024. C'était l'entourloupe de cette affaire, sauf que les sénateurs et sénatrices n'ont pas du tout apprécié l'entourloupe. Et ce qui est marrant, c'est que les plus énervés de l'affaire, c'est finalement les centristes au Sénat, qui se sont largement opposés à ce que cette Catherine Pégard reste en place, en disant « faut arrêter de se moquer de nous, vous avez tenté de nous avoir ». Pierre Ouzoulias, par exemple, dénonce, lui, que c'est un concours équestre. Du côté de la socialiste Sylvie Robert, on parle de « fait du prince ». C'est-à-dire que là, on a essayé en fait de duper tout le monde par une petite manœuvre facile, hein, bien utilisée. C'est-à-dire, on utilise un projet de loi dans lequel on insère quelque chose qui n'a rien à voir pour conserver ses amis à des postes avantageux.
Et la dernière petite info de ce Canu Info du 26 janvier 2023, c'est des nouvelles du pape François, puisque dans un entretien réalisé par l'agence de presse américaine Associated Press, et qui a été diffusé hier, le pape a été invité à clarifier la position du Vatican concernant l'homosexualité. Donc le pape a réaffirmé que cette orientation sexuelle n'était pas un crime, mais un péché. Voilà. Faisons. Alors, il a dit ensuite. Mais d'abord, faisons la distinction entre un péché et un crime. Il a expliqué la différence, tout ça. On s'en fout. Il explique pas. On sait qu'il y a de nombreux prêtres qui sont vraiment très homophobes. C'est encore très très fort. Et le pape, lui, a jugé, je cite, qu'il devrait plutôt engager un processus de conversion et avoir de la tendresse. Processus de conversion, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils arrivent à convaincre ces croyants homosexuels qu'ils sont en train de commettre un péché et qu'ils deviennent hétéros. Eh ben, ça nous fait vomir, comme d'habitude. Hein. Le pape est donc toujours homophobe. Alors, il a une position officielle qui est un peu ambiguë, qui est censée, soi-disant, refléter les efforts de tolérance exprimés par l'Église catholique sur le sujet de l'homosexualité et tout ça. En fait, c'est juste du foutage de gueule. On rappelle que 67 pays criminalisent encore l'homosexualité, dont 11 prévoient la peine de mort pour l'homosexualité, et en grande majorité, voire quasiment tout le temps, c'est pour des raisons religieuses. Nous vomissons les religions.
Deux infos pour terminer, j'ai pas le temps de vous en parler aujourd'hui, mais sachez que c'est la fête nationale en Australie le 26 janvier. Cette fête nationale, elle commémore l'arrivée de la première flotte européenne dans le port de Sydney en 1788.
Ah, le début de la colonisation, tu veux
exactement
dire.
Et donc sachez qu'il y a il y a des articles en ce moment dessus. C'est assez intéressant parce que donc il y a des manifestations des indigènes pour dire on aimerait exister dans la constitution de 1901, nous n'existons pas et en plus on célèbre la colonisation et notre discrimination, ouais. Et cette voilà, donc j'ai pas le temps de vous en parler aujourd'hui, mais c'est très intéressant. Et puis surtout, et là je vais prendre un peu plus mon temps, juste pour dire les mots correctement, il fait froid, nous avons tous froid, j'aimerais encore une fois qu'on pense à ceux et celles qui sont à la rue. En janvier, nous sommes donc le 26 janvier, il y a déjà 36 morts de la rue, donc c'est le collectif Mort de la rue qui nous rappelle ça. 13 personnes en une semaine sont décédées du fait d'être à la rue. Voilà, c'est un chiffre qui est énorme pour 26 jours de 2023.
On vous laisse avec la prochaine émission, un petit bout de bande continue, et ils arrivent, ça s'appelle La Carte Son, une émission donc musicale.
À la semaine prochaine, ciao.
Bye bye.